lorsqu'il est temps que nous commencions notre journée, j'ouvre donc les 18e assises de Seuil à civilisation. Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs les présidents et directeurs, Mesdames, Messieurs les hauts fonctionnaires, Monsieur le Président Jacques Delors, qui nous fait l'honneur d'assister à nos assises, et je souligne aussi que vous êtes un des parrains de notre association. Chère Marie-Thérèse Lacombe, chers amis, au nom de toute l'équipe, je suis heureux de vous accueillir et d'ouvrir les 18e assises de Sol et Civilisation. Dans la salle, je vois de nombreux compagnons de route et des fidèles de notre association. Vous voudrez bien m'excuser de ne pouvoir vous saluer tous individuellement, mais je tenais à vous redire la joie que j'ai de vous retrouver et vous remercier de nouveau pour votre soutien qui nous permet chaque jour d'avancer et de progresser. Seul et Civilisation est une aventure collective et votre implication, qu'elle soit dans notre conseil d'administration, notre comité d'orientation, nos groupes de travail, nos divers projets, est nécessaire et indispensable car la réflexion s'enrichit par la rencontre des idées et n'a de sens que si elle est partagée. Certains de nos amis, malheureusement, n'ont pu venir. Je sais que leur fidélité n'est pas en cause, comme le prouvent les nombreux messages d'encouragement que j'ai reçus récemment. Je tiens donc à les saluer et à les remercier chaleureusement pour leur appui sans faille. J'ai notamment une pensée pour Gérard de Caffarelli et Henri de Benoît qui n'ont de cesse de nous soutenir. D'autres personnalités n'ont pu se libérer, mais m'ont également témoigné de leur sympathie. Je tenais en ce début d'assise à les excuser, à les remercier pour l'intérêt qu'ils portent à nos travaux. Permettez-moi ainsi de citer Jean-Michel Lemétayer, Luc Guyot, M. le ministre de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Pêche, M. le ministre de l'Espace Rural et de l'Aménagement du Territoire. Permettez-moi également de saluer les membres ici présents de l'association MVER, Association des ingénieurs pour la mise en valeur de l'espace rural, et son président Philippe Ballan, avec qui nous avons noué ces derniers temps des liens étroits. Je tiens aussi à saluer les membres de l'association européenne Ruralité, Environnement, Développement, dont nous sommes devenus, voilà quelques mois, administrateurs. Son président, Gérard Peltre, sera d'ailleurs cet après-midi à notre table ronde. Il a présidé l'Assemblée générale de son organisation ici même à Paris, ce qui nous permet aujourd'hui d'accueillir de nombreux confrères européens, et je m'en félicite. Je tiens enfin, si c'est une tradition, de compter parmi nous, je tiens à saluer l'équipe d'Henri Olagnon de l'AgroParisTech, ses étudiants, avec qui nous travaillons depuis de nombreuses années. Nos collaborations vont prendre en effet, dès l'automne, une nouvelle dimension, puisque nous lançons de concert deux modules de formation, et je voulais ainsi les remercier de leur confiance. Nous sommes donc réunis pour la 18e édition des Assises de Sol et de Civilisation. Comme vous le savez certainement, une journée importante dans notre calendrier, car elle marque l'anniversaire de notre association qui se lança après le Dimanche des Terres de France, le 29 septembre 1991. Nos assises rappellent en quelque sorte cet élan originel où les ruraux étaient montés à Paris sous l'impulsion de Raymond Lacombe, alors président de la FNSEA et de nombreuses personnalités, pour tendre la main aux urbains et leur proposer de cheminer ensemble plutôt que de s'ignorer. Cet esprit demeure, et vous le comprenez, nos assises restent ainsi placées sous le signe de la rencontre des hommes et des idées. Je me réjouis donc une fois de plus de vous voir tous réunis, sympathisants comme nouveaux venus, et d'accueillir pour nos débats les intervenants de la journée que je salue collectivement avant de les retrouver tout à l'heure. Nous aurons également le plaisir et l'honneur d'entendre en fin de journée M. Philippe Vasseur. J'avais d'ailleurs écrit dans mon texte d'accueillir. Mais je remercie M. Philippe Vasseur, non seulement d'intervenir cet après-midi, mais de nous faire le plaisir d'assister à l'ensemble de nos travaux. Philippe Vasseur, bien connu, ancien ministre de l'Agriculture, et actuellement, entre autres activités, président du World Forum de Lille sur l'économie responsable. World Forum qui propose depuis 3 ans des échanges internationaux de qualité. L'édition 2009 traitera de la question de l'argent responsable et je vous invite à vous y rendre les 17, 18 et 19 novembre prochains. Ces assises sont enfin, me semble-t-il, alors même que nous sommes chaque jour accueillis d'informations diverses et contradictoires, une occasion utile de mettre en perspective certaines évolutions du monde et s'interroger ensemble et avec recul sur l'intérêt d'une ruralité pleinement vivante dans nos sociétés modernes. C'est en réalité, depuis 18 ans, notre objectif premier. Certains ont pu y voir un temps un combat défensif, notamment lorsque les campagnes étaient délaissées, que certaines étaient agonisantes, quand elles perdaient de la population ou que le monde urbain les regardait de haut. D'autres ont pu y voir parfois une question dépassée, notamment quand elles sont redevenues attractives, que l'intérêt pour le développement local s'est affirmé. Notre propos n'a pourtant jamais été nostalgique ou corporatif. Nous sommes convaincus, en revanche, qu'une civilisation qui oublie son sol et ses gestionnaires, qui néglige une partie de ses territoires et de ses hommes, ne peut durablement maintenir ses équilibres. Au-delà de la simple équité, la ruralité ne doit pas être abandonnée au profit d'un tout urbain. Elle mérite en cela d'être défendue, promue comme un espace de vie tout aussi légitime, et nous aurions tort de ne pas soutenir le développement local, tant il semble dynamisant pour la compétitivité des territoires. Notre propos est plus global. Dans un monde soumis à de lourdes tensions économiques, sociales ou environnementales, et qui cherche de nouvelles synthèses, dans un monde qui ne se pense et ne se vit que dans le mouvement et l'abstraction, la ruralité est, nous semble-t-il, bien plus qu'un espace complémentaire du développement industriel et urbain, c'est aussi un espace d'innovation, une certaine façon d'habiter le monde, une voie pour construire d'autres possibles. Voilà bien notre ambition, montrer que la ruralité n'est pas un espace du passé, qu'elle n'est pas seulement un trait d'union, une coupure verte entre deux agglomérations, mais qu'elle peut être aussi, sous certaines conditions, une source d'avenir. Ces 18e assises garderont ce fil rouge. Nous vous proposons donc cette année de poser ce débat en se réinterrogeant sur la nature des crises qui nous traversent. Cette entrée peut surprendre, mais elle procède de 2 constats. D'une part, un constat d'évidence. Nous vivons une période particulièrement troublée et chaotique. Les crises sont partout. Au niveau local, avec les conflits d'usage, les délocalisations d'entreprises, le chômage et les difficultés économiques, voire certaines pollutions. À des niveaux plus globaux, le titre de nos assises le suggère d'ailleurs, le système financier complètement débridé, qui se serait effondré sans l'intervention des États. Il n'a pas toujours été trouvé d'alternative à l'après pétrole. La question alimentaire, quelque peu délaissée, est loin d'être réglée. D'autres difficultés pourraient s'ajouter à cette liste, l'évolution du climat et les pollutions, mais aussi et surtout les écarts de développement qui, dans des périodes comme celles que nous vivons, continuent de se creuser. Je mesure qu'en évoquant ces problématiques, des chiffres, des analyses, des cas concrets vous apparaissent. Je ne vais donc pas les développer, d'autant que Gérard François Dumont et Pierre Calame éclaireront dans la première partie de la matinée certaines de ces tensions. Je soulignerai simplement que les crises sont donc aujourd'hui multiples, économiques, sociales, humanitaires, souvent reliées entre elles, qu'elles nous concernent tous, qu'elles s'expriment à tous les niveaux. Elles remettent en cause chaque jour nos modes de vie, nos activités, nos relations. Comment la ruralité vit-elle ces temps troublés? Elle est, comme tant d'autres espaces, concernée, mais elle ne peut pas être, comme nous le pensons, une alliée efficace, mais elle peut être, comme nous le pensons, une alliée efficace pour mettre en œuvre d'autres types de développement. Quel serait alors son apport? Voilà les questions ouvertes qui méritent des approfondissements. D'autre part, nous constatons que les solutions aujourd'hui proposées pour sortir des crises restent encore largement insatisfaisantes et que nous n'arrivons pas, in fine, à concilier la compétition économique qui conditionne notre court terme avec notre volonté de trouver des équilibres territoriaux et sociaux à long terme. Ce sentiment d'impuissance est d'ailleurs renforcé par l'extrême volatilité de ces solutions, qui paraissent miraculeuses un temps et se révèlent souvent problématiques à l'épreuve des faits ou dépassées par un nouveau contexte. Rappelons-nous en guise d'illustration quelques problématiques agricoles récentes. Les OGM, à la fois ange et démon, les biocarburants, un temps encouragé, un temps critiqué, les marchés agricoles, il y a 2 ans très porteurs et ouvrant des perspectives, aujourd'hui effondrés et déstabilisateurs. Alors, comment répondre? Faudra-t-il demain réglementer davantage, imposer, taxer encore pour susciter des comportements collectifs vertueux? Nous voyons bien que cette voie suscite toujours la critique, comme nous l'a rappelé récemment, pour ne prendre qu'un exemple, les débats autour de la taxe carbone, aussi accusée par les uns que défendue par les autres, source de progrès pour les uns, source d'iniquité pour les autres. Faut-il alors faire confiance au marché, au progrès technique, malgré les aléas? La croissance verte est annoncée comme un nouveau relais pour l'économie mondiale. L'innovation technique, pour sa part, offre des opportunités indéniables, mais là encore, pour certains, le traitement n'apparaît pas à la hauteur des besoins supposés du malade et il conviendrait d'engager des mutations plus profondes et plus rapides. Pour d'autres, le principe de précaution doit s'imposer davantage, tant les risques leur paraissent évidents. Je crois en fait qu'il n'y a pas de solution simple et qu'elles ne peuvent être envisagé sans condition. J'en soulignerai 2. Nous manquons d'abord d'outils de régulation sur les marchés. Les marchés agricoles sont à ce titre un cas d'école. Comment en effet un agriculteur dont les perspectives sont nécessairement à moyen et long terme pourra-t-il simplement vivre, se maintenir durablement avec des cours de matières premières aussi fluctuants, investir et se développer alors que la rentabilité de son exploitation est finalement remise en cause tous les 6 mois par un marché déconnecté des réalités concrètes et soumis à des spéculations incontrôlées. Il est urgent de mieux encadrer ces marchés. De même, les marchés financiers doivent être débarrassés de leurs travers malsains. La finance doit rester un outil au service de l'économie réelle, et non pas une finalité pour spéculateurs. Le discours est convenu, mais les actes manquent encore de fermeté. Ce matin, j'écoutais la radio, la télévision, et j'entendais dire que les traders de Wall Street allaient percevoir des primes records. Sans commentaire. J'élargirai ensuite cette thématique de la régulation marchande à celle de la gouvernance. Car si les marchés ont besoin de règles, nous avons besoin plus largement de mieux articuler nos décisions, et ce, à toutes les échelles. Dans nos territoires d'abord, pour dépasser nos antagonismes naturels et faire naître des stratégies de développement qui répondent aux aspirations des uns et des autres. Au niveau des États, pour permettre la diversité des situations sans fragiliser l'unité de l'ensemble, entre les États, pour prendre en charge des problématiques transversales. Au-delà de ces conditions structurelles, les territoires ruraux peuvent-ils nous aider à inventer d'autres approches plus intégrées? des approches où, justement, la performance économique, le progrès social et le respect de l'environnement et des ressources entrent en résonance harmonieuse au lieu de s'opposer. Voilà bien une question qui mérite désormais d'être débattue. C'est donc sur ce double constat que je souhaite ouvrir nos assises. Les crises sont là plus fréquentes, plus virulentes. Elles demandent des changements, elles appellent de nouvelles solutions. Ces solutions ne pourront être seulement techniques, organisationnelles, institutionnelles. Elles devront sans doute être tout cela à la fois, mais davantage encore, c'est-à-dire imprégnées de valeurs de civilisation, car les solutions seulement matérielles ne feront que nous conduire de ces crises à d'autres crises. Ainsi, en quoi et comment la ruralité peut-elle nous aider à les surmonter ? Comment peut-elle être un espace de progrès qui contribue à l'émergence de nouveaux équilibres ? En d'autres termes, les territoires ruraux sont-ils des terres d'avenir ? Je serai bien sûr, pour maintenant lancer le débat, tenté de répondre par la positive. Nous avons évoqué tout à l'heure, les crises d'aujourd'hui sont d'abord des crises de vivre ensemble. Et il convient plus que jamais de trouver les voies qui nous permettront, sans nier la liberté de chacun, de nous associer pour construire un monde plus viable. Ceci, me semble-t-il, ne sera possible que si chaque homme, en responsabilité, s'engage avec les autres et prend en charge sa part dans les équilibres nécessaires. Ces modes d'être et d'agir se sont exprimés durant des siècles dans le monde paysan. La solidarité, le mutualisme, le sens du bien commun, la gestion en bon père de famille des ressources naturelles ont ainsi façonné de nombreux territoires ruraux. Ce potentiel génétique n'a pas disparu, mais il doit être davantage reconnu et surtout réactivé. Il doit nous aider à repenser ce qui nous unit, à rechercher de nouveaux chemins qui privilégient les besoins de l'homme plutôt qu'une rationalité externe, qu'elle soit technique ou financière. Cette ruralité, porteuse de civilisation, peut s'exprimer au-delà des espaces ruraux. Elle est une chance pour tous. La table ronde de cet après-midi reviendra sur ces aspects et nous verrons sans doute qu'une ruralité active et vivante peut faire exemple et donner du sens dans nos sociétés. La ruralité est aussi faite de projets, ainsi elle est également porteuse d'avenir, tant elle peut, par ses caractéristiques propres, trouver des réponses à trois des grands défis du siècle qui commence. Nourrir en quantité et en qualité une population planétaire en croissance, lutter contre les aléas et les changements climatiques et offrir de nouvelles sources d'énergie non fossile. Préserver les ressources naturelles, la biodiversité, en rapprochant les hommes de la nature dans une réalité sans phare. En effet, comme espace de production alimentaire et non alimentaire autour de la biomasse agricole et forestière, comme espace de gestion des écosystèmes locaux, comme espace naturel, la ruralité est potentiellement un espace d'activité durable, un espace pour gérer le vivant dans la proximité, et fournir un ensemble de services et de produits et participer ainsi à l'émergence d'un monde plus viable. Nous verrons tout à l'heure avec les exemples de la ferme de Grignon et du district rural de Maremma en Italie un certain nombre d'exemples concrets, au demeurant assez innovants. Nous verrons d'ailleurs que bien plus que la ruralité elle-même, c'est la nature globale des projets qui révèle tout le potentiel rural. Ainsi, au-delà de l'espace rural, ce sont bien ici les territoires ruraux, compris comme des espaces de projets intégrés, qui sont les potentiels vecteurs de l'innovation, à la fois créatrices de valeurs économiques, mais aussi sociales et humaines. La ruralité est donc avant tout une opportunité pour penser et agir différemment, une matrice et un laboratoire en quelque sorte pour construire un autre vivre ensemble. Un espace de projet pour concilier un développement réel avec des activités intégrées. En cela, le territoire et ses terres sont porteurs d'avenir. Je voudrais, pour conclure, avoir une pensée et citer un des fondateurs de Sol et Civilisation, Jean Dupuis. Jean Dupuis connaissait bien les milieux ruraux. Il a été un proche de Raymond Lacombe, un penseur et un entrepreneur visionnaire. Jean Dupuis n'a eu de cesse de défendre l'homme en action et la ruralité comme source de civilisation, sans esprit partisan ou défensif. Dans l'un de ses derniers ouvrages, « L'aubergiste oublié », il nous rappelait, avec des mots très simples, combien la ruralité pouvait certes nous renvoyer aux charmes agrestes, mais, surtout si nous étions des citadins désireux d'aérer nos poumons oppressés par la population urbaine. Pourtant, il pensait profondément qu'elle pouvait nous apporter plus, tant ce rapport entre l'homme et son territoire qui la fonde était un signe de sagesse. Il disait encore, avec la même simplicité et la même persuasion, que la ruralité pouvait bien sûr aérer nos poumons, mais surtout, elle pouvait davantage et en profondeur aérer nos esprits. J'espère que cette journée y contribuera et je vous remercie.